Je donne la parole à Françoise Combes, qui est observateur de Paris, qui est une grande spécialiste des galaxies en tout genre, de modélisation des galaxies. À toi la parole.
Merci beaucoup. Donc justement, je vais vous parler d'une des applications du Hyper Télescope, qui va être les galaxies au début de l'univers, du moins si on peut. Je ne sais pas si vous m'entendez ou si ça va. Donc, si on a des grands télescopes, aujourd'hui, ce que l'on fait, c'est surtout avec le Space Telescope de Hubble, qui est représenté ici, qui est un 2 mètres dans l'espace, donc qui s'affranchit de la turbulence dans l'atmosphère, comme l'a décrit Antoine. Et puis aussi, dans le futur, on a ce télescope radio millimétrique ALMA, qui est au Chili, qui est un télescope mondial États-Unis, Asie et Europe, et enfin beaucoup de pays y sont, et qui a commencé à fonctionner avec la moitié de ses antennes. Il y aura 60 antennes de 12 mètres et qui sera terminé en 2013. Donc c'est vraiment très proche, donc je dirais ce qu'on peut faire avec. Alors pourquoi on est intéressé par l'étude des premières galaxies du début de l'univers? Je vous ai rappelé un petit peu l'histoire de l'univers ici dans ce petit schéma qui représente verticalement le temps. Ici, c'est le Big Bang, le début de notre expansion de l'univers, notre bulle d'univers dans laquelle nous sommes. Ici, on a donc une échelle en temps logarithmique qui met un peu plus d'importance pour le début. Vous avez un plasma chaud, l'univers est opaque, et ça s'arrête jusqu'à ce que l'univers, disons, le plasma se recombine en atomes d'hydrogène, on appelle ça la recombinaison. C'est environ 300-380 000 ans après le Big Bang. Et puis ensuite, vous avez ce qu'on appelle l'âge sombre, parce qu'il n'y a plus aucune lumière, les premières étoiles, les premières galaxies ne sont pas nées. Et ce qui remplit l'univers, c'est l'hydrogène, essentiellement. On l'appelle H1, parce que c'est la première sorte d'hydrogène, H1. En fait, évidemment, avec un petit peu aussi de traces d'éléments qui ont été formés dans le Big Bang, qui sont les éléments légers, deutérium, hélium. L'essentiel de l'hélium qu'on voit est formé dans le Big Bang. Et puis, les premières galaxies se forment peu à peu. L'univers s'expand, mais il y a gravité qui permet aux premières galaxies de se former, donc les premières étoiles, à peu près 500 millions d'années après le Big Bang. Et on a symbolisé dans ce cartoon ici des petites bulles jaunes, puisque les premières étoiles, c'est-à-dire les premières galaxies, en fait, vont ioniser par le rayonnement UV l'univers. Et donc, tout cet hydrogène qui était neutre dans l'âge sombre va devenir ionisé. Aujourd'hui, on sait qu'entre les galaxies, tout l'hydrogène est ionisé, tout ce qui est entre les galaxies. Tout ce qui est dans les galaxies est neutre, mais entre les galaxies, c'est ionisé. Donc, c'est transparent, alors qu'ici, si vous avez un rayonnement, il va être absorbé par l'atome d'hydrogène pour s'ioniser. Donc, vous avez un âge sombre ici, ce qu'on appelle renaissance cosmique, c'est-à-dire renaissance de la lumière. Et puis, la fin de l'âge sombre, on le fait à peu près à 1 milliard d'années. Donc, vous voyez que tout ça a été un petit peu amplifié par l'échelle logarithmique, puisque l'âge de l'univers, c'est environ 13,7 ou 14 milliards d'années. Donc le premier milliard d'années est très intéressant, c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Comment se forment les premières galaxies? Alors pourquoi c'est intéressant? C'est qu'on ne sait pas du tout comment s'est organisé l'univers, on voudrait le savoir. Est-ce que ce sont les trous noirs, les quasars, justement, dont on a parlé? J'appellerai quasi-stellar object, donc QSO. Et puis, on sait que les premières étoiles n'ont pas beaucoup de métaux. Le métaux, ce qu'on appelle en astrophysique les métaux, c'est le carbone, l'azote, l'hydrogène, CNO, tous ces éléments qui sont formés dans les étoiles par la nucléosynthèse au centre et qui n'arrivent qu'ici. Donc les premières étoiles, elles n'ont pas de ces métaux, donc elles n'ont pas assez de refroidissants. Et donc on pense qu'elles vont être très très grosses, c'est-à-dire qu'il faut qu'elles soient beaucoup plus grosses pour s'effondrer sur elles-mêmes. On pense qu'il y a des énormes 1000, 2000, même d'un million de masses solaires. On n'en sait rien parce que toutes ces étoiles, ces premières étoiles, sont mortes aujourd'hui. Leur âge est d'autant plus court que leur masse est grande. Donc aujourd'hui, on ne sait pas. Donc il n'y a que des spéculations et des modèles. Alors comment fait-on pour reconnaître ces galaxies, ces premières galaxies? Alors justement, on a des quasars qui sont très brillants. Les quasars, donc, ce sont les trous noirs qui sont au centre des galaxies et qui émettent énormément de rayons X, de rayons UV. Et puis, si on regarde à travers justement la ligne de visée, il y a soit de l'hydrogène atomique, si on est dans l'âge sombre, ou non. Donc on s'est aperçu que dans un spectre de quasars que vous avez ici, ici c'est la longueur d'onde, il y a un petit peu d'anglais qui traîne dans mes slides, je m'en excuse, je n'ai pas tout traduit, mais ici on parle surtout de décalage vers le rouge dû à l'expansion de l'univers, et on va appeler ça redshift, hein, c'est beaucoup plus court que décalage vers le rouge. Donc ici on a la longueur d'onde qui croît, Et lorsqu'on a un quasar qui émet dans certaines longueurs d'onde, on a une coupure qui est l'absorption de l'atome d'hydrogène, la limite de Lyman. Et on voit que tous les atomes d'hydrogène qui sont entre le quasar et nous vont absorber toute la lumière du quasar qui normalement serait ici. Donc c'est cette absorption qui nous montre que tout l'hydrogène est complètement neutre et donc que le quasar est au-delà de la période sombre, c'est-à-dire la période où on n'est pas encore rayonisé. Sinon, si le quasar était ici, où l'univers est déjà rayonisé, à ce moment-là, on aurait juste une forêt Lyman alpha, mais l'essentiel serait au même niveau que le quasar. Donc justement, on utilise un petit peu cette technique de coupure, on appelle ça drop-out, c'est-à-dire que la luminosité tombe, pour détecter quelles sont les galaxies qui sont très lointaines. Parce qu'en fait, quand on fait des champs profonds de Hubble, du Hubble Space Telescope, il a fait des champs très profonds, comme on voit un exemple ici. Dans une minute, on a à peu près 3000 galaxies, une minute carrée, c'est énorme. Donc il faut reconnaître quelles sont les galaxies qui sont près, quelles sont les galaxies qui sont loin. On ne va pas faire un spectre des 3000 pour le savoir. On va juste regarder. Alors évidemment, là, on sait que les galaxies les plus grosses que vous voyez, c'est les proches, évidemment. Et puis tous les petits points, là, il y en a des milliers, ce sont les galaxies très lointaines. Et comment on le sait ? Mais on regarde les couleurs. Justement, là, il y a un U-B, B-V, c'est les différences de photométrie de bande. On fait une photométrie, c'est-à-dire avec une bande dans le U, dans le B, dans le V, dans le I, etc. Ce sont des filtres qui filtrent la lumière. Et donc, on regarde la galaxie dans le bleu, par exemple, dans le visible, dans l'infrarouge, etc. Et ceci nous permet d'être plus sensible, parce que lorsque vous faites un spectre de la lumière, vous avez des raies très fines, et pour les galaxies très lointaines, ce n'est pas possible, on n'a pas assez de sensibilité pour voir les spectres. Par contre, si on prend des grandes largeurs de filtres, alors là, on est assez sensible. Donc on fait en quelque sorte une spectroscopie photométrique, et on regarde si on voit la lumière de U, de B, de V, ou si normalement tout le bleu doit être éteint par tout l'hydrogène qui est entre la galaxie et nous. Donc, si la galaxie a un redshift de 4, par exemple, on va avoir une coupure ici, etc. Donc, c'est par ces coupures de Lyman, dues à tout l'hydrogène qu'il y a entre le quasar ou la galaxie lointaine et nous, qu'on va pouvoir détecter où sont ces galaxies lointaines. Alors, voici un exemple, justement, pratique. Vous voyez une galaxie à z égale 3, donc un redshift assez grand. Z, en fait, c'est le delta lambda sur lambda, lambda étant la longueur d'onde, c'est le décalage vers le rouge de delta lambda, par rapport à lambda. Donc c'est déjà 3, c'est un assez grand redshift. Le milieu de l'âge de l'univers, c'est 0,7. Donc là, on est vraiment très loin, près du Big Bang déjà. Ici, on a donc la galaxie qui émet. Vous voyez un peu la coupure qui est due à l'absorption de l'hydrogène sur la ligne de visée qui absorbe pour s'ioniser. Donc c'est la coupure Lyman. Alors vous voyez qu'ici, le U, on ne va pas le voir. Et en effet, le U, on ne le voit pas lorsqu'on fait un filtre U. On ne le voit pas, le B on le voit, le V et le I, et on voit l'objet. Donc on regarde où la coupure se passe en regardant tous ces filtres photométriques. Et ça permet d'avoir le Z sans faire la spectroscopie vraiment de l'objet. Et puis la rayonisation, donc comment on se représente cette rayonisation, qui est un objet d'étude actuellement très important. Ici un petit schéma. Alors là, c'est 100, 300, 600 millions d'années après la recombinaison, ce n'est pas seulement après le Big Bang, c'est après le 300 000 ans après le Big Bang, qui est la dernière surface de diffusion des photons. On voit que commencent à apparaître les premières galaxies, ici en bleu. Le jaune, c'est l'hydrogène neutre de l'univers, qu'on va appeler H1. Et puis, vous voyez que peu à peu, les étoiles dans les galaxies vont faire une bulle de ionisation. Tout le rayonnement UV va ioniser. Et on va, s'il y en a beaucoup, ça va pouvoir percoler, c'est-à-dire faire une grosse bulle qui vont se rejoindre. On va rayonniser tout l'univers. Si la galaxie est trop isolée, c'est possible qu'après un burst de formation d'étoiles, ça se recombine et on ne ionise rien du tout. Donc il faut qu'il y ait vraiment un effet de boule de neige, un effet coopératif pour que toutes les bulles... Ici, on a une simulation de ce processus où on a en jaune ici les degrés d'hydrogène neutre. Et puis vous voyez que les galaxies commencent à naître et puis peu à peu, on va rayonniser et... tout l'univers, ça va se percoler partout. Alors, on pense qu'on est complètement rayonisé à Z égale 6, justement, à la fois dans les modèles et puis aussi lorsqu'on regarde les quasars, au-delà de Z égale 6, on a cette absorption profonde. Alors, dans quel instrument on va pouvoir étudier vraiment en détail cette rayonisation, qui pour l'instant est on la suppute, on a quelques observations, mais pas beaucoup, on a surtout des simulations sur ordinateur, et bien justement, on a un de ces hypertélescopes, mais en radioastronomie, on va recréer une surface qu'on appelle Square Kilometer Array, c'est-à-dire un kilomètre carré, c'est-à-dire 1 million de mètres carrés de surface. Donc ça, c'est vraiment le plus gros télescope du monde. Il y aura, entre la distance des plus lointains, 3000 kilomètres. Le site va être choisi le 29 février de cette année, en fait, entre l'Australie et l'Afrique du Sud. Donc, c'est vraiment très proche. Et il va commencer à être construit bientôt. On a des prototypes pour l'instant. On a, par exemple, l'OFAR, qui est un prototype de ces antennes à Nancy, en Sologne, et puis en Hollande. Et puis, on a le design, en fait, le projet de ce type-là. On aura des stations qui comprendront justement de ces petits télescopes. On reconstruit donc la surface d'un million de mètres carrés. Et puis, elles vont être situées comme ça. Ici, si on a 3000 km, vous voyez, on sera construit en spirale. C'est le dessin de spirale qui est le plus efficace pour pouvoir reconstruire les surfaces. Alors, selon la longueur d'onde, parce que ça va fonctionner dans les longueurs d'onde centimétriques, métriques, décamétriques, etc. Selon la longueur d'onde, les petits éléments individuels seront différents. Ici, on a par exemple quelque chose comme des dipôles, parce que c'est des longueur d'onde très grande, et puis en centimètres, on a plutôt des paraboles, comme vous avez l'habitude, et elles vont être réunies dans ces grands de surface, beaucoup plus serrées dans le cœur, et puis ensuite plus étalées. Alors, avec ce télescope, je ne l'ai pas dit, on va détecter surtout l'arrêt à 21 cm, qui est l'arrêt fondamental de l'atome d'hydrogène, qui aujourd'hui est détecté à cette longueur d'onde-là, mais si on veut garder à Z égale 10, elle va être décalée vers le rouge jusqu'à 2 mètres de longueur d'onde. Donc c'est l'hydrogène atomique de l'univers dans la période sombre que l'on va détecter avec ce télescope, puisqu'on va le détecter soit en absorption, soit en émission, selon qu'il y ait des sources ou non. Ça, c'est très, très délicat. Pour l'instant, on fait des simulations. Et on pense que bientôt, c'est-à-dire 2018-2020, lorsque les premiers télescopes arriveront, on saura le détecter. Alors, je reviens aux galaxies, donc dans cette période, les premières galaxies de période sombre. Donc, on a détecté quand même un certain nombre de ces galaxies par la technique de la rupture Lyman, la coupure. Et puis, on commence à savoir comment ça évolue. C'est-à-dire qu'ici, on a par exemple le nombre de galaxies en fonction de leur luminosité et du volume, donc la densité volumique, en fonction de leur luminosité ou magnitude, si vous voulez. Ici, c'est les brillantes et ici, les faibles. Donc, évidemment, on a moins de galaxies brillantes et beaucoup plus de galaxies faibles. Et puis, on regarde comment ça évolue en fonction de décalage vers le rouge, du redshift, c'est-à-dire lorsqu'on se rapproche du Big Bang. Alors on voit qu'il y a un grand déficit lorsqu'on approche du Big Bang de grosses galaxies. Par contre, les petites galaxies sont presque aussi nombreuses. Donc ceci conforte un peu l'idée que les galaxies se forment de façon hiérarchique. On a des petites galaxies au début de l'univers qui fusionnent pour en former des grosses. Ici, on a un petit détail de la pente qui est à peu près la même. Et puis, ici, on a rajouté les derniers développements où on a assez de statistiques pour les compter par unité de volume jusqu'à Z égale 8. Et on voit qu'on évolue beaucoup pour les grosses galaxies, donc il y a très peu de grosses galaxies. Il y en a quand même, on en détecte beaucoup, ce qui quand même est une surprise parce qu'on pensait qu'au début, il n'y aurait que des petites galaxies. Ils se forment déjà très, très vite au début de l'univers de grosses galaxies dans certaines régions de surdensité où justement l'évolution est plus rapide. Mais pour les petites galaxies, il y en a presque autant à Z égale 8 que 6. Donc vous voyez, c'est un petit peu cette évolution que l'on a symbolisée là en fonction du temps. On a des petites galaxies qui fusionnent et forment une grosse galaxie aujourd'hui à T égale 0. Donc on a une succession de fusions de galaxies qui forment cette évolution. Alors à 7 égale 8, 7 et 8, c'est vraiment plus récent, hein, ce qu'on a obtenu. Alors, toujours la sélection par les couleurs. Lorsqu'on a un champ profond avec des millions de galaxies, on plotte ici des couleurs J-H et Z-J, et puis on a toutes les galaxies qui sont plus proches, qui ont différentes couleurs à cause de cette rupture de Lyman, et on prend cette région-là, on pense que toutes les galaxies à grand redshift sont dans cette région. Ça permet de faire une présélection. Et puis on regarde dans les divers filtres. Alors vous voyez, par exemple, ça commence à être difficile, hein, Z égale 8, on a des galaxies très faibles, mais au centre, on a un objet ici, et puis tout d'un coup, on n'a plus rien. Donc ça, c'est vraiment des objets qui ont une rupture dans le rouge, donc ils sont très, très loin, très décalés vers le rouge. Donc c'est comme ça que l'on détecte. Alors avec quels instruments, hein, donc Antoine en a déjà parlé, on a D'abord, le Hubble Space Telescope, qui a été récemment amélioré avec la caméra ACS3, qui a fait un bond énorme de sensibilité d'un facteur 40. Et puis, il y a aussi des imageurs, le dernier Hawkeye sur le VLT, que vous avez déjà vu, avec une très très forte sensibilité, jusqu'à 27 magnitudes, avec des champs de 8 minutes carrées, beaucoup plus grands que le Hubble, et puis aussi des champs très très grands, pour essayer de récupérer le plus de galaxies possible. Alors, on peut se demander aussi quelle est vraiment la première des galaxies. Est-ce qu'on peut arriver jusqu'à Z égale 10? Oui, en fait, on pense que, sans pouvoir en être très très sûr, puisqu'on n'a pas la spectroscopie vraie, on n'a pas vraiment de ray spectral, mais on a ce genre de rupture. Ici, cette fois-ci, c'est à 1,6 micron qu'on voit l'objet, puis tout d'un coup, on ne le voit pas. On a toujours cette rupture. Certains ont mis en cause ces découvertes de candidats à Z égale 10. Il y en a 2 ou 3 ou 4, pas plus, aujourd'hui. Et on a essayé de réobserver, donc à plusieurs époques, cet objet. Et vous voyez qu'il y a quand même... C'est un petit peu dans le bruit. Donc quand même, dans les diverses époques, on le trouve. Donc certains sont confiants qu'il y a vraiment un objet. Mais on est vraiment à la limite des télescopes. Et on pense que, dans le futur, sera lancé en 2018 un futur télescope spatial, dont la maquette est ici, le James Webb Space Telescope, qui aura un diamètre de 6,5 mètres, alors que le Hubble a pour l'instant 2 mètres, donc vous voyez un peu la surface, et qui fonctionnera aussi dans l'infrarouge pour regarder toutes les galaxies qui sont très décalées vers le rouge. Et donc, ça permettra de détecter tous ces objets très, très facilement. Alors qu'aujourd'hui, on est vraiment à la limite de ce qu'on peut faire avec le Hubble Space Telescope. Donc, tous ces candidats à Z égale 10, on va pouvoir les détecter très facilement, alors qu'aujourd'hui, c'est vraiment un pionnier. Alors, par contre, il y a des objets qu'on peut détecter à très, très grand redshift, et c'est peut-être là qu'on a fait des progrès très récemment, dans ces sursauts gamma, qu'on appelle gamma ray burst ou GRB, qui sont... qu'est-ce que c'est que ces sursauts gamma? Ce sont, en quelque sorte, comme des grosses supernovées. On peut l'appeler des hypernovées. Donc, soit c'est une étoile en fin de vie très massive qui éclate en supernovée, mais vraiment une super étoile. C'est un ordre de grandeur au-dessus des supernovées, ce qui fait qu'il y a énormément d'énergie qui, tout d'un coup, est envoyée. Et surtout, dans les rayons gamma, ça dure très peu de temps, hein, quelques secondes. Parfois, quand c'est à grand redshift, vous avez une dilatation du temps due à la dilatation de l'univers. Comme vous êtes à Z égale 10, vous avez rallongé d'un facteur 10 la durée du sursaut gamma, ce qui nous permet de le détecter plus longtemps, heureusement. Mais tout de même, ça dure quelques secondes. Donc, il y a des alertes pour ensuite faire le suivi optique ou X, etc., des afterglows, c'est-à-dire des retours de brillance. Et vous voyez qu'on peut essayer de faire, justement, sur la galaxie derrière ou sur l'afterglow, la brillance qui suit, un peu ces ruptures, c'est-à-dire l'absorption de tout l'hydrogène qui est entre l'objet et nous, et voir si on peut détecter à quelle distance il est par ce problème de redshift. Et donc, ce n'est pas vraiment... Une spectroscopie avec précision, mais c'est une spectroscopie photométrique qui a permis de montrer qu'aujourd'hui, les plus lointains objets sont peut-être des gamma ray bursts. Alors, c'est intéressant de voir que le dernier est aujourd'hui à Z égale 9,4. Il y en avait un juste un peu avant, 8,2. Alors, c'est un petit peu un petit cartoon ici qui vous montre, à partir du Big Bang, vous avez une inflation ici, le rayon de l'univers croît. Vous avez la période sombre. Ici, j'ai représenté le plasma, la partie opaque de l'univers, lorsqu'on n'a pas d'hydrogène encore. Ici, on a l'hydrogène, donc c'est 400 000 ans après le Big Bang. Et ici, ces gamma ray bursts, ces sursauts gamma, sont ici, dans la période sombre, avant même les premières galaxies. Alors, pourquoi on les détecte? Simplement, ce sont certainement des galaxies, mais les galaxies sont encore trop faibles pour qu'on les voit, et on ne les voit qu'avec les traceurs gamma. Alors, c'est intéressant de voir historiquement justement, quels ont été les objets les plus lointains qu'on a pu voir? C'est-à-dire, ici, vous avez le redshift en fonction de l'année de leur détection. Donc, les quasars ont très souvent, pendant très longtemps, été les objets les plus lointains qu'on pouvait voir. Parce qu'un quasar, lorsqu'il se met à avaler de la matière, le trou noir central, devient 1000 fois plus brillant que la galaxie qui est sous-jacente. Donc, on détectait le noyau actif, on ne détectait pas la galaxie. Ça a été comme ça dans les années 60, 70, etc. Vous voyez que le redshift du plus grand quasar, c'était 4, alors que la plus grande galaxie, c'était 1. Donc, on ne détectait pas les galaxies sous le quasar, en quelque sorte. Et puis, peu à peu, avec les télescopes, par exemple ici, le Hubble Space Telescope, on a pu détecter les galaxies, même plus lointaines que les quasars. Et maintenant, c'est les sursauts gamma qui reprennent le relais, et on a les sursauts gamma qui sont les objets les plus lointains que l'on peut voir, parce qu'ils sont les plus brillants. Donc voici à quoi correspond cette image-là. Ici, c'est une image en X, ce que vous voyez en orange, c'est en X. En bleu et vert, c'est les optiques. Là, c'est des objets d'avant-plan optique, mais sur le gamma reverse, on ne voit rien en optique, c'est trop faible. On voit surtout les X et les gamma, pour l'instant. Alors peut-être avec le JWST, on verra quelque chose. Alors qu'est-ce qu'on essaie d'obtenir, évidemment, en regardant ces objets à grand redshift, c'est comment se sont formées les étoiles, justement, comment sont toutes les galaxies qui nous entourent, quand ont-elles fait leurs étoiles, l'essentiel de leurs étoiles. On sait que, par exemple, la Voie lactée, notre propre galaxie, ne forme que 2, 3 étoiles par an. Or, il y a 200 milliards d'étoiles dans la Voie lactée, donc on sait qu'elles ont été formées à un moment donné. On pense que c'est dans la première moitié de l'univers que se sont formées toutes ces étoiles. L'essentiel des étoiles sont vieilles, en quelque sorte. On a pu déterminer quel était le taux de formation d'étoiles, ou alors le nombre d'étoiles en fonction du temps. Et si on a le temps, au début et aujourd'hui, on a à peu près mesuré le nombre d'étoiles qu'il y a dans l'univers dans un certain volume de mégaparsec cube. On peut le mettre sous cette forme-là, on peut le mettre aussi sous forme de taux de formation d'étoiles par an, par mégaparsec cube, c'est la par unité de volume, en fonction du temps. Ici, vous avez le temps en milliards d'années, ou bien le redshift équivalent. Alors, vous voyez que, bon, quand on le met linéaire en redshift, on voit bien que dans le temps n'est pas du tout linéaire. Hein. Évidemment, vous arrivez à 1 milliard d'années jusqu'à z égale 6, et on a pu obtenir ces courbes-là. Alors pourquoi il y a deux courbes? Il y a une courbe qui est obtenue par le rayonnement UV optique des galaxies qui forment les étoiles. C'est la courbe en bleu. Vous voyez qu'il y a un pic de formation d'étoiles à peu près à 2 ou 3 milliards d'années après le Big Bang, donc très tôt dans l'univers. Et puis ensuite, ça retombe. Donc aujourd'hui, on forme 10 à 100 fois moins d'étoiles qu'à cette époque-là. Et puis, il y a une courbe en jaune qui est la courbe qu'on corrige lorsqu'on sait que la plupart des flambées de formation d'étoiles sont toujours entourées dans leur cocon de poussière, de gaz moléculaire de poussière. Et donc, on les voit en infrarouge. On ne les voit pas directement en optique parce que c'est éteint. Et donc, si on tient compte de cet infrarouge, on corrige et on voit qu'on peut corriger d'un gros facteur ici. Donc, on a plus de formation d'étoiles. Et cette courbe-là correspond d'ailleurs mieux au nombre d'étoiles qu'on voit aujourd'hui. Parce qu'on sait combien il y a eu d'étoiles totales, on peut les compter aujourd'hui. Donc, on sait quand est-ce qu'elles se sont formées essentiellement. On a encore quelques barres d'erreur, mais on a quand même une histoire de formation d'étoiles de l'univers. Alors, il y a quand même des problèmes. Là, j'ai l'impression de montrer que tout est connu, etc. Pas du tout. Ici, on a le taux de formation d'étoiles spécifique. Spécifique, ça veut dire par unité de masse. Plus une galaxie est grosse, plus elle forme d'étoiles. Mais quand même, plus elle est grosse, moins elle formera d'étoiles par unité de masse. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de masses qui sont déjà présentes, des vieilles étoiles. Donc, si on regarde le taux spécifique, c'est-à-dire formation d'étoiles par unité de masse, voici ce qu'on voit, en fait, ce qu'on observe. En fonction du temps ou bien du redshift, ici, ça monte énormément. C'est-à-dire, autrefois, on était, pour une unité de masse donnée, on était beaucoup plus efficace pour former les étoiles, d'un grand facteur, puisque ça, c'était log, donc on a ici un facteur 10. Donc ici, à z égale 1, 2, on était beaucoup plus efficace pour former les étoiles. Ça correspond à notre histoire de formation d'étoiles. Et puis après, on devient très assez constant, assez plat dans l'efficacité. Et ça, on se demande pourquoi. Alors pourquoi on s'attendrait à voir quelque chose qui continue à monter? C'est qu'au début de l'univers, dû à l'expansion de l'univers, on a des galaxies qui sont très très compactes, beaucoup plus denses. Et le temps dynamique est très court. Donc le temps de formation d'étoiles est beaucoup plus rapide. Et puis aussi, il y a beaucoup plus de gaz autrefois, puisque le gaz se transforme progressivement en étoiles. Donc au départ, on a plus de gaz, donc on devrait former plus efficacement des étoiles. Donc on s'attendrait à voir un peu des courbes comme ça, qui continuent à monter. Et là, on a un plateau, on n'a pas du tout compris pourquoi, au début de l'univers, l'efficacité n'est pas aussi grande qu'on croirait. Alors peut-être, il s'agit de la métallicité, dont j'ai parlé aussi, c'est-à-dire que le gaz est très peu enrichi d'éléments lourds comme le carbone, l'azote et l'oxygène, qui permettent de refroidir le gaz et de former les étoiles, donc c'est une possibilité. Mais il y a d'autres possibilités. Pour l'instant, ça, c'est encore en travaux. On ne sait pas vraiment pourquoi c'est moins efficace. Alors maintenant, je vais passer à un domaine plus de l'observation du gaz, qui va être plutôt en radioastronomie. Hein, je vais montrer un peu ce qu'on pouvait faire en optique. Et je vais vous expliquer pourquoi le domaine de millimétrique, radioastronomie millimétrique, est très important pour regarder les galaxies à grand redshift au début de l'univers. Voici par exemple le flux en fonction de la fréquence pour une galaxie donnée. Alors, j'ai pris une galaxie ici AZ égale 0,1, c'est-à-dire très locale, une galaxie qui nous est proche, par exemple ARM 220, qui est un typique, une formation d'étoiles en flambée. Et ce qu'on voit ici, c'est que la lumière est préférentiellement émise dans l'infrarouge lointain, c'est-à-dire 100 microns de longueur d'onde. Vous voyez qu'il y a un pic à 100 microns de longueur d'onde. Le pic optique serait ici, mais il serait beaucoup plus bas. C'est-à-dire qu'une galaxie typique qui a une flambée de formation d'étoiles émet la plupart de sa lumière en infrarouge lointain. Et le pic, c'est 100 microns. Donc si on espère détecter ces galaxies qui forment beaucoup d'étoiles dans le début de l'univers, c'est à ces fréquences-là qu'on va les détecter en premier. Alors vous voyez qu'on a fait un petit exercice, c'est qu'on a essayé de décaler vers le rouge ce spectre typique d'une galaxie. Et ça, ce sont les redshifts successifs, donc 0,1, 0,5, 1, 3, 5, jusqu'à 10, qu'on espère détecter. Alors quel est le premier effet de ce décalage vers le rouge? C'est de diminuer le flux total. Bien entendu, elles vont être de plus en plus faibles puisqu'elles sont de plus en plus lointaines. Mais il y a aussi un décalage vers le rouge certain. Vous voyez qu'ici, on va décaler de 100 microns à 1 mm si on est à z égale 10. Donc, tout ce flux-là, cette forme-là, elle va être décalée vers le rouge. Et vous voyez apparaître de façon géométrique ce point remarquable, c'est qu'à 1 mm de longueur d'onde, toutes les courbes se croisent. Et même, je dirais que celle à z égale 10, elle dépasse celle à z égale 0,5. C'est-à-dire que si vous regardez à 1 mm de longueur d'onde, vous voyez beaucoup plus facilement des galaxies lointaines à z égale 10 que des galaxies proches. C'est ce qu'on appelle un renversement, une correction K, correction cosmologique, comme disent les Allemands, ils appellent ça cosmologie avec un K. Donc ce terme K, correction, vient de l'allemand en fait. Donc on fait une correction cosmologique pour savoir comment vont être décalés vers le rouge les objets. Et cette correction est négative. D'habitude, les objets les plus lointains sont plus faibles et on voit plus facilement les objets proches, ça paraît logique. Et là, on a un paradoxe, on voit plus facilement les objets lointains. Donc ça, c'est très intéressant. Ça montre l'utilité d'observer justement avec ce télescope ALMA, dont je vous ai décrit un petit peu au début, dont la sensibilité va être celle-ci, là, ce petit carré noir, vous dire qu'on pourra observer des galaxies jusque-là. Donc z égale 10, jusqu'à même au-delà, sera très facile à détecter avec ALMA, grâce au fait que le pic d'émission va être décalé dans 1 mm de longueur d'onde, 200 microns à 1 mm. Alors ça, c'est pour l'émission continuum. Alors, cette émission continuum, c'est l'émission de la poussière chauffée par les étoiles qui sont derrière. Les étoiles sont cachées par leurs nuages de poussière. Vous avez des étoiles très brillantes, mais elles chauffent la poussière à une température de 30 Kelvin, 40 Kelvin. Et cette température, elle correspond au re-rayonnement de la poussière qui est à cette température-là. Alors justement, on a pu essayer de détecter dès aujourd'hui avec les instruments actuels, qui ne sont pas aussi puissants qu'ALMA, mais quand même, par exemple le télescope de l'IRAM, qui est un institut franco-allemand espagnol, qui a une antenne dans la Sierra Nevada près de Grenade et aussi au plateau de Bure près de Grenoble. Et donc ici, vous avez le flux détecté en continuum, donc la poussière qui émet parce qu'elle est chauffée par les étoiles, avec un certain échantillon de quasars qui était à z égale 2, z égale 4, 6. Tout ça a été observé et avec un taux de détection de 30%, ce qui était assez surprenant parce que c'est des quasars qui vont jusqu'à z égale 6. Alors pourquoi on a pris des quasars? Parce que justement, on s'attendait à quand même avec l'optique d'avoir le redshift et donc ces objets les plus puissants. Et en fait, les quasars, ce n'était pas sûr qu'il y ait des formations d'étoiles dans les galaxies. En fait, on s'aperçoit que oui, il y a une corrélation entre le noyau actif et les formations d'étoiles. Et puis, il y a beaucoup de poussière, et ça, c'était une surprise quand même, parce qu'on pouvait se dire, il n'y a pas beaucoup de métaux, hein, on avait dit de carbone, d'azote, d'oxygène et de silicium, qui sont les grains de poussière. Et pourtant, donc à z égale 6, on a quand même assez de poussière pour pouvoir détecter ces objets. Donc ça, c'était une surprise, qu'on forme la poussière très très vite par les supernovées essentiellement. Pas seulement les étoiles. Au début, on pensait que c'était les étoiles évoluées comme les asymptotiques, la branche asymptotique des géantes, qui demandent des milliards d'années pour se former. Mais les supernovées, non. Et les supernovées peuvent former de la poussière et elles se forment très, très vite. Alors, il y a aussi non seulement l'émission de la poussière qu'on peut détecter, mais aussi les raies moléculaires. Par exemple, la raie CO, le monoxyde de carbone. Alors, pourquoi le monoxyde de carbone? Parce que c'est la molécule la plus abondante après la molécule d'hydrogène elle-même, H2. La HH, une molécule d'hydrogène. La molécule d'hydrogène a, hélas, le bon goût d'être symétrique. Hein, H2 est symétrique. Donc, il n'y a pas de dipôle et elle ne rayonne pas. Donc, la molécule H2, elle est invisible. Donc, pour tracer le gaz moléculaire, il faut avoir recours à des molécules. La plus abondante, c'est le monoxyde de carbone dans l'espace. Vous avez H2 et puis CO, la principale. Donc, CO nous sert à tracer l'hydrogène moléculaire qui est le plus abondant. Donc aujourd'hui, on a pu aller très très loin avec ces sources CO. Ça aussi, c'est une surprise. Ça a commencé dans les années 90, mais aujourd'hui, on en est presque à 100 sources détectées. Et c'est quand même difficile, parce que je vous avais dit que pour le continuum, c'est plus facile de regarder les sources lointaines que les sources proches, mais pour les raies CO, ce n'est pas vrai. Les raies CO, on a quand même les plus lointaines, sont plus difficiles à détecter que les plus proches. Donc c'est quand même très difficile. Et voici le premier exemple historique, qui était cette galaxie, qui avait le bon goût d'être amplifié gravitationnellement par une lentille. Alors, on se sert beaucoup de ces amplifications de lentilles, c'est un télescope gravitationnel, pour permettre de détecter un peu plus loin. Alors, il y a aussi le fait, on est un petit peu aidé, du fait qu'il se peut qu'il y ait plus d'hydrogène moléculaire que d'hydrogène atomique en fonction du temps dans l'univers. Alors, ça, on n'en est pas très sûr. Mais les modèles nous le disent ça. Ici, c'est un modèle qui est comparé aux observations. Alors ici, c'est en fonction du temps ou du redshift, vous avez l'abondance de l'hydrogène atomique, H1. Essentiellement, l'arrêt à 21 cm ne peut pas être détecté plus que Z égale 0,1. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on regarde l'hydrogène atomique par absorption devant les quasars, mais dans l'optique, par l'arrêt Lyman. Et à ce moment-là, on a des points qui sont assez dispersés et un modèle qui nous montre que l'abondance d'hydrogène aurait cette courbe en fonction du temps. Et puis, la raie moléculaire, alors là, on n'est pas certain, ce sont vraiment des modèles, serait plus abondante au milieu de l'âge univers. Au début, l'hydrogène n'est quand même pas très, très dense parce que les structures ne sont pas formées. Mais ici, on a un pic qui serait dû à la formation des amas de galaxies et des galaxies qui s'entrechoquent et qui formeraient beaucoup de matériaux denses. Et donc, si on fait le rapport des deux, on voit que le gaz moléculaire sur le gaz H1 aurait une courbe comme ça en fonction du temps, c'est-à-dire que ça ne fait que décroître. Donc, si on regarde dans le temps, en fonction du temps, on va avoir plus de gaz moléculaire que de gaz atomique. Donc, ça favorise nos recherches de gaz moléculaire. Alors, quand on regarde un petit peu les galaxies qui ont été détectées dans les raies moléculaires, donc pour savoir quel est le contenu moléculaire des galaxies, ici, on a la luminosité du monoxyde de carbone, c'est-à-dire en gros le contenu moléculaire d'une galaxie. Et ici, on a la luminosité en infrarouge lointain, le pic de luminosité de la poussière, qui nous donne un petit peu une idée du taux de formation d'étoiles de ces galaxies. Donc on le prend comme traceur du taux de formation d'étoiles. On voit qu'il y a une très très bonne corrélation entre cette luminosité infrarouge, traceur de formation d'étoiles, et le gaz. Alors ça, ce qui est surprenant, c'est que c'est valable aussi pour les quasars. Les quasars qui, normalement, sont des noyaux actifs. Et on aurait pu penser que c'était surtout le noyau qui émettait de la lumière et pas forcément la galaxie. Et cette corrélation nous dit qu'il y a une très, très bonne association entre la formation d'étoiles et les noyaux actifs. C'est-à-dire que dès que vous avez du gaz qui arrive dans une galaxie, il va à la fois alimenter la formation d'étoiles et puis alimenter le noyau central. On a les deux à la fois. Alors, quelques exemples de galaxies que l'on a détectées dans le gaz moléculaire à Z supérieur à 4, donc très très loin. En général, c'est par biais de sélection des objets qui ont été amplifiés par lentille gravitationnelle. Ici, vous avez comme un anneau d'Einstein. Lorsque vous avez une lentille, c'est-à-dire une galaxie devant, d'avant-plan, puis une galaxie très lointaine, et que ces deux galaxies sont alignées, les images gravitationnelles qui sont formées dans la lentille forment presque un anneau dû à la symétrie de l'alignement. Je vais vous montrer quelques petits diagrammes de lentilles tout à l'heure. Et vous voyez un petit peu les redshifts qui sont détectés. Il y a à peu près 6 quasars à Z égale 6 qui sont détectés dans cette molécule. Donc ça commence à être assez intéressant pour savoir comment se forment les étoiles et avec quelle efficacité. Un des plus grands quasars à Z égale 6, 4, c'est celui-ci. Vous voyez l'objet qui est un petit peu rouge au milieu, là, qui est le quasar à Z égale 6, qui a une rupture de Lyman très grande, qui montre qu'on est vraiment dans l'âge sombre, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'hydrogène neutre sur la ligne de visée, qui absorbe complètement la luminosité du quasar au-delà de la rupture de Lyman. Donc ça, c'est vraiment une preuve que l'on a dépassé l'âge sombre, que sans doute la réionisation n'arrive pas avant Z égale 6. Et puis on a des masses de poussière et des masses de gaz énormes. Donc masse de poussière, en général, vous avez un rapport 1000 avec la masse de gaz, donc ça vous ferait 10 puissance 11 de masse de gaz, ce qui doit être comparé à la masse de gaz qui est dans la Voie lactée, qui est quelques 10 puissance 9. Donc vous avez 100 fois plus de gaz que dans la Voie lactée, dans ce genre de galaxie. C'est pour ça qu'on arrive à les détecter. Et puis vous avez un trou noir dont la masse est assez élevée. Et ça, je vais le dire de plus en plus, hein, je vais montrer plusieurs exemples, où on trouve que la masse du trou noir, par rapport à la masse de la galaxie, est plus forte autrefois qu'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il semblerait que les trous noirs se forment plus vite au début de la galaxie. Alors, le trou noir le plus lointain aujourd'hui, c'est à Z égale 7.1, trouvé l'an dernier par Mortlock et ses collaborateurs. Il y a des exemples qui sont très jolis, comme vous voyez ce quasar qui a été appelé trèfle à quatre feuilles, ou cloverleaf en anglais. Pourquoi ? Parce que simplement, on a quatre images du quasar. Ici, c'est une image du Hubble Space Telescope en rouge. On voit très bien les quatre images, elles sont très symétriques. Donc c'est vraiment le... Alors, que se passe-t-il ? Vous avez aussi le télescope en X-ray Chandra qui a observé ça. La galaxie lentille est d'avant-plan et puis le quasar est ici, la source est ici. Le rayon lumineux est dévié par la lentille et donc vous prolongez les rayons lumineux qui arrivent dans votre œil pour voir où est l'image. Et l'image, il y en a une ici, une ici, une ici. Et donc voici ce que voit le télescope Chandra, il voit quatre images qui correspondent bien aux quatre images vues par le Hubble Space Telescope en visible. On voit les rayons X parce que c'est un quasar et le quasar émet en rayons X au centre. Donc on voit quatre images. Et puis avec le télescope donc, de l'IRAM du plateau de Bure, qui est pour l'instant 6 antennes de 15 mètres près de Grenoble, sur ce plateau de Bure près de Gap, qui est le plus grand télescope millimétrique au monde aujourd'hui, qui va être dépassé par ALMA, mais pour l'instant c'est encore le plus grand. Et qu'est-ce qu'on voit ? On voit la raie moléculaire CO7-6. Alors CO, c'est une molécule qui émet en raie de rotation. Donc vous avez des niveaux, comme une échelle de niveaux, le premier étant 1,0, etc. Vous avez jusqu'au 7,6. Ce qui est intéressant, ça veut dire qu'il est très excité. La molécule est excitée, sans doute due au quasar. Et vous voyez très bien, parce qu'avec cet interféromètre, on a une résolution qui est pratiquement celle de Chandra. Chandra a une résolution de 0,5 à 1 seconde. C'est encore mieux que l'optique. Ici, on a une seconde, vous voyez qu'on a une résolution qui est inférieure à la seconde, donc encore mieux que l'optique aussi, au sol. Et on peut résoudre les quatre images, comme le HST, avec le radio interféromètre. Alors, on a aussi observé du gaz de très très haute densité, pas seulement le monoxyde de carbone CO, mais aussi la molécule comme HCN, ou même HCO+. Ça, c'est des molécules qui se voient très près du Big Bang, donc à Z égale 6, et qui nous trace le gaz très dense. Parce que la molécule HCN, c'est une molécule qui a un dipôle très élevé. Donc pour être excité, il faut une densité très grande d'hydrogène moléculaire, donc de 10 puissance 5 à 10 puissance 10 particules par centimètre cube, un peu comme dans Orion. Vous avez dans la nébuleuse d'Orion des cœurs denses qui sont à 10 puissance 10 particules par centimètre cube, et donc qui sont tracés par cette molécule. Et dans les galaxies proches, on a une très très bonne corrélation entre le taux de formation d'étoiles et l'abondance de cette molécule HCN. Donc c'était intéressant de voir, pour les galaxies à grand redshift, si on pouvait le détecter. Et en effet, par exemple, on a détecté, ça c'est la raie d'HCO+, les contours sur les quatre images de CO que je vous ai déjà montrées, et ici HCN, sur le trèfle à quatre feuilles. Donc on a pu détecter, donc là, c'est dans ce quasar à grand redshift, ces molécules. Donc ça nous donne une idée sur la formation d'étoiles dans ces objets. Dans celui-ci, il n'est pas très 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 excité, c'est quand même à 7,6, mais quand même, on a d'autres objets comme celui-ci qui est un quasar encore plus fort, et à ce moment-là, l'excitation est encore plus haute. On peut aller jusqu'à Z égale, enfin le CO 12, 13, 14, 15, donc ces niveaux de rotation. Donc on pense que ceci, c'est un traceur du quasar. L'excitation est dominée par le quasar au centre. Alors d'autres applications de ces lentilles. Ici, on a aussi un autre objet avec une lentille gravitationnelle, avec une grande amplification. Et le principe de la lentille gravitationnelle, c'est on a l'impression, si l'objet est ponctuel, que la luminosité est agrandie par la lentille. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi que l'objet est étendu. En fait, quand on regarde la brillance de surface, amplifiée ou pas amplifiée, c'est la même. Mais c'est simplement que l'objet est agrandi. Donc, évidemment, si vous le regardez au total, vous avez l'impression que la luminosité est plus grande, mais en fait, la brillance de surface est la même. Et donc, ça, on s'en sert ici. On a agrandi l'objet par la lentille gravitationnelle et on peut résoudre les nuages moléculaires un par un. On a, par exemple, mesuré des températures du gaz qui étaient de 29 Kelvin, 33 Kelvin, 61 Kelvin. C'est-à-dire que c'est pratiquement la température qu'on a aujourd'hui dans les nuages moléculaires comme Orion, sur des échelles de 100 parsecs, c'est-à-dire qu'on descend à résoudre les nébuleuses dans chaque galaxie, à très grand redshift. C'est vraiment une performance, mais qui est due au fait que, d'abord, on a un interféromètre avec une bonne résolution, et aussi, on a le télescope gravitationnel qui nous agrandit les objets. Alors, voici un autre exemple, un autre anneau d'Einstein. Alors, sur les anneaux d'Einstein, c'est très intéressant parce qu'il y a un très fort point d'agrandissement. Alors, on reconstruit un petit peu la forme. Évidemment, l'objet dans le plan du ciel, la lentille, est très déformée. Ici, c'est ce qu'on observe avec l'interféromètre. Vous voyez l'anneau d'Einstein. Mais en fait, si on reconstruit, on fait un modèle de la lentille, on peut reconstruire l'objet, on a l'impression que c'est une galaxie qui est vue par la tranche. On a représenté ici les vitesses, c'est-à-dire ici, c'est vers le rouge, décalé vers le rouge, ici, vers le bleu par effet Doppler, donc une galaxie en rotation, par la tranche. Donc on arrive à reconstruire, si on connaît un petit peu la lentille, à partir de l'anneau d'Einstein, on reconstruit. Alors ce qu'on a mesuré dans celui-là, c'est que le trou noir, alors comment on détermine la masse du trou noir? Elle n'est pas très très bien déterminée, mais on la détermine en faisant l'hypothèse que le trou noir rayonne à sa limite d'Eddington. Vous savez qu'un trou noir ne peut pas rayonner plus qu'une certaine limite. Cette certaine limite est due au fait que le rayonnement qu'il produit va pousser, par pression de radiation, hein, si le rayonnement est trop fort, il va pousser tout le gaz qui tombe sur le trou noir et donc va limiter sa luminosité. Il ne va pas pouvoir accréter d'autres gaz, donc être plus lumineux. Donc il y a une limite comme ça de pression de radiation qui est donnée par Eddington. Et donc on a le rayonnement du trou noir, on dit bon, s'il rayonne à sa limite d'Eddington, il doit avoir cette masse-là, hein, parce que cette limite est fonction de la masse, et donc c'est celle-ci. Alors, peut-être qu'il n'a pas atteint cette limite, mais c'est la masse minimum. S'il n'a pas atteint cette limite, c'est qu'il doit être encore plus massif. Donc, on a une limite de cette masse, et cette masse est déjà très grande. On a, par l'arrêt de CO, qui nous donne par effet Doppler la masse dynamique qu'il y a dans la galaxie, on sait que la masse du bulbe est 30 fois la masse du trou noir, ce qui est vraiment très petit. Aujourd'hui, on a une corrélation entre masse des bulbes et masse des trous noirs qui nous donnerait un facteur 700. Et non pas 30. Donc ça veut dire que le trou noir est beaucoup trop massif par rapport à la relation que l'on connaît. Je vais le détailler un petit peu plus bientôt. Et on a aussi pu déterminer que la densité de surface du gaz que je vous ai montré, qu'on avait assez de résolution pour la déterminer, on n'a pas seulement un objet ponctuel, et bien cette densité de surface du gaz, elle est limitée aussi par la pression de radiation. Ici, on a un diagramme qui nous donne la luminosité infrarouge, c'est-à-dire la formation d'étoiles, si vous voulez. Il y a trois ordres de grandeur ici, c'est en log. Et ici, on a la densité de surface du gaz mesurée par l'arrêt de CO, la molécule CO. Et on voit que c'est à peu près constant. Ça ne croît plus. Alors, que se passe-t-il? L'interprétation serait de dire qu'il se forme énormément d'étoiles, parce qu'il y a beaucoup de gaz qui a été concentré dans la galaxie. Il se forme beaucoup d'étoiles et ce rayonnement va repousser par la pression de radiation sur la poussière qui est dans le gaz, il va repousser le gaz et la poussière jusqu'à avoir une limite, une saturation en quelque sorte. On ne va pas pouvoir dépasser ça, parce que si on l'a dépassé, il y aurait encore plus de formation d'étoiles, et alors là, ça ferait une pression de radiation énorme qui repousserait le gaz. Donc on a atteint le plateau, on ne va pas pouvoir former plus d'étoiles que ça, en quelque sorte. On a atteint le maximum de formation d'étoiles. Alors, d'autres objets qui sont très jolis, mais beaucoup moins, qui forment beaucoup moins d'étoiles, on peut les détecter puisqu'on a une amplification gravitationnelle d'un facteur 28, donc c'est énorme. Donc ça nous permet d'aller un peu plus bas dans l'unité de l'objet. On appelle cet objet œil cosmique, parce que ça ressemble vraiment à un œil, mais c'est aussi un petit peu un anneau d'Einstein, en quelque sorte. Ça, c'est une image de HST. Donc, ce n'est pas une vue d'artiste, c'est vraiment une image. Et ici, on a dans les contours la molécule CO. Alors ça, c'est grâce à ce facteur-là, on peut mesurer un taux de formation d'étoiles plus petit. Ce n'est pas un monstre comme celui que je montrais tout à l'heure. Ici, c'est une formation d'étoiles. Ici, on a une masse d'étoiles de 6 puissance 9 et une masse de gaz qui est un peu comme celle de la Voie lactée, alors que tout à l'heure, on avait 100 fois la masse de gaz de la Voie lactée. Donc, on arrive aussi à détecter des objets qui forment des étoiles à un taux plus lent et ont moins de gaz, grâce toujours au télescope gravitationnel. On en a quelques-uns comme ça. Hein. Voici encore un de ces arcs. Alors, les astronomes qui l'ont détecté l'ont appelé l'arc de 8 heures. Alors, vous allez dire pourquoi l'arc de 8 heures. Ça ne correspond pas si ça, c'est une montre. En fait, simplement, on leur a demandé, simplement, ils l'ont découvert à 8 heures. ils ne savent plus trouver de nom d'objet. Donc, voici un arc gravitationnel. Et là, on a porté tous les objets qu'on a pu détecter. Donc, pas seulement les très brillants hein, qui sont là, mais on commence à détecter des objets un peu moins massifs et qui forment moins d'étoiles par unité d'année. Alors, ce qu'on a vu quand même, c'est l'efficacité de formation d'étoiles qui est beaucoup plus grande en fonction du temps. Ici, on a le décalage vers le rouge. Et ici, le rapport entre la luminosité infrarouge, c'est-à-dire la formation d'étoiles, sur la luminosité CO, c'est-à-dire la masse de gaz. C'est-à-dire que c'est la formation d'étoiles par unité de masse de gaz. Ici, on a des flambées de formation d'étoiles, des galaxies très très lumineuses, mais locales. Et on voit que l'efficacité est moindre que celle qu'on détecte à 1 et puis au-delà. Et même, parfois, on ne détecte pas le gaz, mais on détecte la formation d'étoiles. Donc, on a des taux de formation d'étoiles qui sont très, très efficaces. Et on ne sait pas trop pourquoi. Parce qu'on sait très bien que, quand même, quand on a une interaction entre galaxies, deux galaxies qui fusionnent, alors on comprime le gaz, on forme beaucoup d'étoiles. Et ça, c'est le principe de toutes les galaxies ultralumineuses qui sont aujourd'hui. Alors, ici, on pourrait dire aussi que c'est des interactions de galaxies, mais pourquoi ça forme 10 fois ou 20 fois plus d'étoiles qu'aujourd'hui ? Alors peut-être qu'il n'y a pas de bulbe autour des galaxies pour la stabiliser dans l'interaction. Peut-être qu'il y a beaucoup plus de gaz. Il y a sans doute un mélange des deux, mais il y a beaucoup plus d'efficacité autrefois pour former les étoiles pour la même masse de gaz donnée. Alors on a essayé justement de repérer des redshifts intermédiaires si on avait une certaine évolution. On a sélectionné les galaxies les plus lumineuses et on a l'impression qu'en effet, la quantité de gaz, en tout cas l'enveloppe, parce qu'on a des galaxies très lumineuses, mais on a aussi des moins lumineuses, mais les plus lumineuses ont l'air de suivre une loi dont la continue en gaz augmente avec le redshift. Et donc c'est peut-être ça l'explication de l'efficacité. Quand on regarde le rapport formation d'étoiles sur masse de gaz, c'est-à-dire l'efficacité de formation d'étoiles, qu'on appelle star formation efficiency dans le jargon, du domaine, à ce moment-là, on a l'impression que, en effet, ça suit une enveloppe en maximum. Il ne faut pas regarder le minimum, hein, minimum, on l'a toujours, mais en maximum, on a une courbe qui suit l'évolution de la formation d'étoiles en fonction du redshift ou du temps. Alors, ces petits objets qui forment beaucoup d'étoiles, hein, ce sont des objets difficiles à voir dans la morphologie. On ne sait pas vraiment si ce sont des interactions de galaxies, peut-être parce qu'ils sont déformés, mais on ne le sait pas toujours. Alors, il n'y a pas que des galaxies qui forment beaucoup, beaucoup d'étoiles. Certains ont sélectionné leur galaxie par d'autres couleurs et ont porté ici toujours le même diagramme, formation d'étoiles et gaz, continu en gaz. Donc ce qu'on avait vu, c'était cette courbe-là que je vous ai déjà montrée. Et puis une certaine catégorie de galaxies a quand même, pour une certaine formation d'étoiles, plus de gaz. Donc quelque chose qui serait quand même moins efficace. Donc l'efficacité maximum, c'est comme une enveloppe. Et puis il y a quand même toute une catégorie de galaxies qui sont peu efficaces. Peut-être que c'est les mêmes galaxies qui sont dans une autre phase d'évolution. Donc dans une certaine phase, il y aurait beaucoup de gaz, mais pas de formation d'étoiles. Puis tout d'un coup, il y aurait un élément déclencheur qui déclencherait une flambée. Donc on ne sait pas trop ce qui déclenche ces flambées. Mais par exemple, ici, dans l'efficacité, vous voyez que l'efficacité normale serait là. Et puis on a des exceptions comme ça, qui ont beaucoup de gaz, mais pas beaucoup de formation d'étoiles. Alors, ces galaxies qui sont des exceptions, elles ne sont très peu excitées. et ça, on peut le comprendre, c'est-à-dire, je vous ai parlé du niveau de rotation de la molécule CO ou d'autres molécules, qui vous donne une petite idée de l'excitation du gaz. Est-ce que le gaz est très chaud ou il n'est pas chaud? Et donc, ici, on a plusieurs courbes qui représentent, par exemple, la première, c'est la Voie lactée, la nôtre, très peu excitée parce qu'elle forme très peu d'étoiles, 3 étoiles par an. On a des galaxies en interaction qui sont les antennes qui ont des queues de marée, et on a cette courbe-là, donc moyennement excitée, et puis jusqu'au trèfle à quatre feuilles ici, qui est très excité parce qu'il y a formation de flambée de formation d'étoiles, etc. Donc vous voyez qu'on a tous les degrés d'excitation selon ce qui chauffe le CO et la poussière, et puis celles qui sont dans un état un petit peu plus stable, beaucoup de gaz sans formation d'étoiles, elles ont toujours une excitation très faible, c'est-à-dire qu'on a un pic d'émission pour des faibles niveaux de rotation des molécules. Donc ces molécules sont très utiles comme outil, ça permet d'avoir non seulement la quantité de gaz, mais aussi l'excitation du gaz. Et on a par exemple des galaxies qui ont été détectées un grand nombre cette fois-ci, c'est un petit peu plus facile de détecter à 1 et 2, mais ça permet de voir l'évolution en fonction de redshift. On voit des galaxies qui ont été détectées en CO3 à 2 par exemple, c'est l'émission en rouge. En bleu, vous avez l'image du HST derrière. Et vous voyez que vous avez une galaxie qui paraît un petit peu transformée, enfin un petit peu perturbée, mais quand on regarde les vitesses, hein, on a le redshift et le blueshift par effet Doppler, elles sont en rotation, elles ne sont pas très très perturbées, c'est-à-dire que ce n'est pas vraiment des interactions entre galaxies qui sont très 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 perturbées. Ici, on a plutôt un disque en rotation. Donc ces galaxies-là forment beaucoup d'étoiles, mais on n'a pas d'éléments déclencheurs. Alors ce qu'on voit quand même, c'est que le contenu en gaz est très important. Si on fait le rapport entre masse du gaz sur masse totale, dans la Voie lactée, c'est 5% de gaz. Ici, c'est 34% pour Z égale 1 et 44% pour Z égale 2. La moitié de la masse est en gaz. Donc ça peut expliquer qu'on forme beaucoup plus d'étoiles qu'aujourd'hui. Et on a ainsi des évolutions. Bon, ça devient peut-être un petit peu plus technique, donc je vais passer très vite. C'est-à-dire que ces galaxies-là, c'est en bleu et vert, elles suivent une certaine évolution de taux de formation d'étoiles qui va très très vite en fonction du redshift, comme une puissance 3 pratiquement du redshift. Donc on a une grande évolution en fonction du redshift. Alors maintenant, il y a quelque chose de nouveau qui est arrivé depuis un an ou deux, là, c'est depuis la première, c'était 2009, c'est que dans le domaine millimétrique, on a des récepteurs à bande très très large qui permettent de détecter le redshift directement en millimétrique, alors qu'autrefois, on était dépendant de l'optique pour connaître la distance et le redshift d'une source donnée. Alors ça va être révolutionnaire puisque il y a des tas de sources qu'on peut détecter en millimétrique à grand Z, mais qu'on ne sait pas à quelle distance ils sont. On est obligé de les voir en optique. Or, en optique, ils sont trop faibles pour les voir. Donc là, on peut faire une science simplement avec du millimétrique en déterminant directement le redshift avec les rayons de CO, par exemple, la spectroscopie CO. Vous avez ici, par exemple, une bande du récepteur qui s'appelle EMIR sur le 30 mètres, l'IRAM qu'il y a en Espagne, et vous voyez une très grande bande, et on a à chaque fois une raie de CO, qui est la détection de la molécule à cette redshift-là. Alors, on ne sait pas quel est le niveau de la molécule, mais on peut faire des hypothèses, et ensuite aller regarder dans une autre bande pour voir si l'autre raie de CO, comme il y a une dizaine de raies de CO, ça vous permet de savoir quel est le redshift avec grande précision. Donc, on va pouvoir avoir des machines à redshift, si vous voulez, très précises. Et c'est ce qui a été un petit peu fait avec un assemblage qui est le satellite Herschel qui a été lancé en 2009 et qui donne beaucoup de résultats. Ce satellite Herschel qui a été lancé par l'Europe, l'ESA, est un satellite qui détecte les ondes infrarouges lointaines. Donc justement, 100 microns et au-delà, c'est-à-dire toutes les galaxies qui ont un pic à 100 microns aujourd'hui et même un pic décalé vers le rouge jusqu'à 500 microns. Donc, ce télescope permet de détecter tous les objets lointains qui sont des flambées de formation d'étoiles et qui rayonnent par leur poussière chauffée d'assez longueur d'onde-là. Alors, ce qu'on s'est aperçu, c'est que, par exemple, à 500 microns, avec ce télescope, on a le nombre d'objets en fonction du flux qui, normalement, auraient une courbe comme ceci. On s'est aperçu qu'il y en avait un excès. Et cet excès est interprété comme les effets de lentilles. En fait, tout ce qui est au-delà de 100 millijansky, on ne devrait pas le voir. Et en fait, dès qu'on a une source supérieure, il s'agit d'une lentille. Et il y en a beaucoup, en fait. On ne s'aperçoit pas, mais il y en a beaucoup. On pense que dans un survey, par exemple, de 550 degrés carrés du ciel, qui est en train de faire Herschel, on va pouvoir en détecter plus d'une centaine. On l'extrapole à partir d'un petit survey qui a été fait depuis 2009 de 14 degrés, qui en a détecté 6. Donc, c'est en cours, puisque Herschel est en train d'observer actuellement. Il a encore pour un an ou deux de fonctionnement. Après, on n'aura plus assez d'hélium pour refroidir le détecteur, mais il va encore fonctionner. On espère avoir tous ces objets. Donc, ces objets sont très intéressants parce que c'est justement ces objets à grand redshift qui vont être très amplifiés. Alors, il y en a quelques-uns qui ont été détectés, par exemple celui-ci. Alors, à chaque fois, on voit le flux de l'objet très lointain qui a un pic dans l'infrarouge, et puis la lentille. La lentille, c'est ce qui est en bleu. C'est l'objet qui est devant et qui, évidemment, n'a pas le même décalage vers le rouge. Donc, à chaque fois, vous voyez l'objet lointain et sa lentille devant qui amplifie. Et puis, avec des télescopes, il n'y a pas que celui de l'IRAM, qui est une machine à redshift. Il y a aussi, par exemple, celui-ci, qui est un télescope de 100 mètres de diamètre, qui vient d'être construit par le NRAO aux États-Unis, hein, à Charlottesville, près de Charlottesville, en Virginie. Et donc, ce télescope de 100 mètres va jusqu'à 2 mm de longueur d'onde, centimétrique jusqu'à 2 mm. Et 2 mm, les raies de CO sont décalées vers le rouge, vers là. À ce moment-là, vous pouvez détecter, vous voyez, une détection de ces galaxies à grand redshift. Donc, vous pouvez détecter ce redshift uniquement en millimétrique. En optique, ces objets ne sont pas vus. Ils sont vus donc par Herschel et par les radiotélescopes. Alors, voici un qui a été détecté par hasard. Ça, c'est vraiment assez curieux. C'était aussi un anneau d'Einstein qui a été détecté par ce télescope, qui est le télescope de 30 mètres de l'IRAM. Et l'amplification est d'un facteur 12. Et vous voyez un petit peu comment les raies de CO sont très fortes, justement dues à cette amplification. C'est vraiment très facile de voir ces raies de CO, alors que optiquement, vous n'avez pas de moyen de faire la spectroscopie. Donc vous voyez que le domaine millimétrique est très intéressant. Et puis, on utilise beaucoup, comme je vous l'ai dit, ce télescope gravitationnel, et jusqu'au point où on pointe les amas de galaxies. Parce que les amas de galaxies, on est sûr de trouver des lentilles. On ne sait pas, si on regarde une galaxie particulièrement, il faut beaucoup de hasard pour trouver une galaxie devant. Mais vous voyez qu'ici, vous avez un bel exemple d'un amas de galaxies. Vous avez une galaxie centrale d'amas et beaucoup de galaxies d'amas. Et puis tous ces arcs, ce sont des galaxies de fond qui sont déformées par l'amas de galaxies qui fait lentille devant. Donc on est sûr, à tous les amas massifs de galaxies, on est sûr de trouver des tas de lentilles de galaxies derrière qui sont amplifiées. Vous voyez que les couleurs sont très différentes parce que ce sont des galaxies derrière. Donc, on a fait un survey avec le satellite Herschel d'une centaine d'amas massifs, donc pour se servir de ce télescope gravitationnel. Et on a commencé à détecter, par exemple, des objets comme ceci, qui sont au fil des lentilles gravitationnelles, où vous voyez toutes les images allongées là-dessus, et on voyait les nuages moléculaires, un par un, qui sont résolus dans la galaxie. Donc ça vous montre comment on étale, et puis avec les raies de CO qui sont énormes. Alors là, c'est une représentation de la taille de ces nuages moléculaires par rapport à la taille en parsec. Hein, donc on résout des parsecs dans ces galaxies à grand redshift. Donc par un parsec, c'est 3 années-lumière, donc c'est très petit par rapport à une galaxie qui fait 10 ou 20 kiloparsecs. Et puis un autre exemple, très récent, hein, qu'on vient de découvrir, donc toujours découvert par Herschel d'abord, à 500 microns, et ensuite on regarde. Alors ici, on avait fait une image avec le Subaru, on a fait une image, le spectre de la lentille devant avec le Keck, mais même le Keck ne voit pas l'objet derrière, il ne voit que l'objet, la lentille. Ici, vous avez la lentille, c'est ça, hein, ces objets optiques qui sont d'avant-plan, qui sont dans l'amas qu'on a regardé, et l'objet lointain, c'est les contours d'Herschel, les contours millimétriques. On ne voit rien en optique. Donc c'est vraiment le règne du millimétrique. On voit énormément de raies, très facile à voir. On voit les raies de CO, on voit les raies de H2O, l'eau, on voit les raies de C1, l'atome de carbone, on voit les raies de N2, enfin beaucoup de raies. Tout n'est pas encore détecté, alors qu'en optique, on ne voit rien du tout. Alors, d'autres raies, donc je passerai sur toutes ces raies, hein, c'est assez intéressant, mais je vois que le temps court, donc je vais passer très vite maintenant. Je voudrais donner deux points, en fait, deux derniers points avant de finir. C'est un des avantages, c'est aussi de regarder si vous avez des structures, des grandes structures au début de l'univers. Ça, c'est un point très intéressant que cherchent les astronomes, de savoir si toutes vos galaxies millimétriques forment des filaments cosmiques. Et on commence à trouver ça, que les galaxies millimétriques, qu'on appelle submillimétriques galaxies, hein, un jargon SMG toujours pour appeler ces nouveaux objets galaxies millimétriques, et on voit qu'elles forment des filaments. Et par exemple, j'ai un exemple ici qui est représenté. Toutes les galaxies millimétriques détectées sont les points jaunes, et en bleu, vous avez les petites galaxies détectées par les Lyman alpha, émetteurs de Lyman alpha. Vous voyez que les galaxies millimétriques suivent les filaments cosmiques. Donc on pense que ces galaxies millimétriques sont un traceur des grandes structures et des amas massifs. Donc là, je passe. Et le dernier point dont j'aimerais parler, c'est justement ces trous noirs. Donc je vous ai dit un petit peu au fil de l'exposé qu'on trouvait dans ces galaxies à grand redshift un trou noir beaucoup trop massif. Alors ça, c'est relatif à la relation que l'on connaît à bas redshift entre la masse du bulbe et la masse du trou noir pour une galaxie donnée. Ce petit cartoon là vous donne l'information que ce qui compte, c'est la masse du bulbe et non pas seulement la masse du disque. Dans la Voie lactée, par exemple, on est à peu près là. On a un très petit bulbe et le trou noir dans la Voie lactée, il ne fait que 4 millions de masses solaires, alors que normalement, ici, on a 9 milliards de masses solaires. Donc, il faut avoir un gros bulbe pour avoir un gros trou noir. On a un rapport 1000 entre ces deux-là. Le disque n'y fait rien, c'est vraiment le bulbe. Donc, les formations d'étoiles dans le bulbe. Alors, que trouve-t-on à grand redshift? Alors, soit c'est la masse du bulbe, soit c'est la dispersion de vitesse du bulbe, mais c'est à peu près la même chose. Donc, ici, on a la masse du bulbe et la masse du trou noir. La relation habituelle que je vous ai montrée. Et puis là, tous ces objets à grand redshift, on les voit ici. C'est-à-dire qu'ils ont une masse de trou noir beaucoup trop grande. Alors, s'il y en avait un, on pourrait se dire, bon, c'est une exception à la relation, mais là, on commence à en avoir un certain nombre. Et on commence à se dire que, bon, peut-être, en effet, la masse du trou noir est plus grosse par rapport à la masse du bulbe que ce qu'on connaît à bas redshift. Alors pourquoi? On sait encore très peu. Là, je passe parce que c'est encore la confirmation qu'on trouvait beaucoup de masse. Mais je m'arrête un petit peu là-dessus puisque là, c'est la relation donc, ordinaire, masse du bulbe et masse du trou noir. Et récemment, on a trouvé des objets qui étaient aussi en exception, mais à bas redshift, localement. On a trouvé deux objets qui ont une masse de trou noir 10 fois supérieure à la moyenne. Et alors, quels sont ces objets? En fait, ce sont toujours des galaxies centrales d'amas, ce qu'on appelle des galaxies cannibales qui mangent toutes les galaxies dans un amas au centre. Alors, on peut subodorer et faire des hypothèses. Pourquoi ces galaxies? Alors, pourquoi en fait on a une relation comme celle-ci? C'est qu'à chaque fois que vous avalez du gaz, vous formez à la fois des étoiles, et puis une petite partie du gaz, un millième, va alimenter le trou noir. Et en fait, on a toujours les deux. Dès qu'on a fait arriver du gaz, on ne peut pas empêcher la formation d'étoiles. Donc pourquoi ces galaxies feraient croître leur trou noir plus vite que leurs étoiles? On pense que c'est comme elles sont au centre des amas. Au centre des amas, vous avez beaucoup de gaz chaud qui est vu en rayons X et qui forment des flots de refroidissement vers le centre. Donc on pense que ce gaz chaud va tomber sur le trou noir direct sans former des étoiles parce qu'il est très chaud. Et ça, ce n'est valable que dans les amas de galaxies qui ont chauffé, par interaction entre diverses galaxies, ont chauffé leur gaz à des millions de degrés. Alors que dans une galaxie isolée, quand vous n'êtes pas au centre de l'amas, eh bien, le gaz tombe froid et il forme fatalement des étoiles avant de former le trou noir. Donc on a cette succession. Donc il est possible que cette exception-là ne soit due qu'à des amas de galaxies et peut-être qu'à grand redshift, on est tombé sur les galaxies qui sont les centrales d'amas et c'est peut-être cette hypothèse-là qui pourrait expliquer cette exception. Ok, ben je vais en terminer là. Donc, les perspectives sont très, très belles avec tous les télescopes, donc les hyper-télescopes, dont a parlé Antoine aussi, le superbe télescope James Webb dans l'espace, et puis ALMA, on va pouvoir déterminer beaucoup mieux cette histoire de formation d'étoiles et puis aussi l'efficacité. Je m'arrêterai là. Merci. Si vous avez...